L'œil politique passe à la loupe les grandes questions actuelles. Témoignages, opinions, analyses. L'équipe vous retrouve le dernier samedi du mois, de midi à 13h, pour penser les enjeux politiques qui agitent la société. L'œil politique, c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est midi et vous écoutez L'œil politique, votre mensuel qui vous propose d'essayer de décrypter les grandes questions politiques qui interrogent la société. Après avoir abordé la violence en manifestation dans notre dernière émission, nous continuons à nous intéresser aujourd'hui à l'actualité et en particulier à la mobilisation dans le mouvement social. Dans un contexte où la violence et la répression sont grandissantes, on oublie souvent de rappeler que l'engagement, lui aussi, est grandissant. On oublie de rappeler que de nombreuses personnes sont de tous les piquets de grève, de toutes les manifestations, de toutes les casserolades et de toutes les actions militantes. On oublie de rappeler que ce mouvement social a créé une véritable camaraderie, une véritable force de groupe, une véritable unité dans une lutte commune. Aujourd'hui, dans le studio, nous souhaitons mettre en lumière les actions des plus jeunes, étudiants et lycéens, qui sont moteurs et acteurs de la lutte sociale et qui n'hésitent pas à mettre leurs études entre parenthèses le temps des mouvements sociaux. Pour aborder le sujet, Camilia nous fera une carte blanche pour parler du SNU. Bonjour Camilia.
Bonjour.
Quentin, Yelena et Adeline animeront notre entretien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour tout seul de Quentin, mais Yem et les filles sont avec nous dans le studio aussi. Et aujourd'hui, c'est Seb qui sera à la réalisation de l'émission.
Bonjour.
Pour ma part, je suis Louise et j'animerai l'émission d'aujourd'hui, en plus de faire un petit billet d'humeur en fin d'émission pour vous parler des actions grandissantes des Mangemorts. Mais tout de suite, revenons au sujet du jour. Dans un contexte où les lycées sont régulièrement bloqués en soutien aux mouvements sociaux, où l'Université de Nantes a accueilli récemment la Coordination Nationale des Étudiants et où les lycéens et étudiants se mobilisent à la fois lors des manifestations avec un cortège de têtes jeunes qui réunit beaucoup de monde et de nombreuses actions comme les opérations Ville Morte où les étudiants et lycéens n'hésitent pas à s'impliquer, nous recevons aujourd'hui Maë, étudiante en lettres modernes, et Angéliam, lycéen au lycée de des Bourgeonnières pour parler de leur engagement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Mais tout de suite, avant ce grand entretien, c'est l'heure de laisser s'exprimer Camilia qui va nous parler du service national universel.
L'équipe de l'émission pose son regard sur l'actu dans ses cartes blanches.
En France, on aime bien les sigles, même si on ne connaît pas toujours leur signification. Mais pour certains, il faut quand même avouer que même si on connaît la signification de l'acronyme, c'est toujours pas clair du tout. Et l'autre jour, justement, j'en ai eu la parfaite illustration quand je discutais avec quelqu'un et que j'ai commencé à vouloir lui parler du SNU. Ouais, j'ai des conversations assez merveilleuses et passionnantes en ce moment. Et stupeur, la personne en question, appelons-la Julie, ne savait pas ce que c'était. Alors évidemment, j'ai répondu, bah Julie, voyons, le SNU, c'est le Service National Universel, un projet éducatif d'émancipation et de responsabilisation des jeunes visant à les impliquer pleinement dans la vie de la nation et à creuser et à nourrir le creuset républicain. Bon, résultat, Julie m'a regardée avec des yeux vides comme si je lui parlais en macroniste. Et alors je vous dis pas qu'ensuite je lui ai dit « D'ailleurs en ce moment ils sont en train de faire un tour de France avec le village SNU pour en parler, ils ont même un camion mascotte ». Là vraiment, il n'y avait plus de lumière dans ses yeux et moi je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête d'aller sur jeune.gouv.fr. Derrière ce nom un peu obscur, le SNU c'est un dispositif que le gouvernement a mis en place depuis 2019 avec l'éducation nationale et l'armée. Sur la base du volontariat, pour l'instant, pour les jeunes de 15 à 17 ans et qui consiste à leur faire passer, je cite, un séjour de cohésion, encadré entre autres par d'anciens militaires, un séjour de 2 semaines donc pour renforcer la cohésion et l'engagement des jeunes. Alors on pourrait se dire, mais trop cool cette idée d'aller passer 2 semaines tout frais payé par le contribuable comme si j'étais un ministre, dans un centre avec d'autres jeunes pour apprendre à marcher au pas militaire en portant un uniforme bleu marine. Ouais, bon, après quand on se penche sur le programme, il y a quand même des trucs un peu gênants. Entre autres, un rythme obligatoire avec un lever à 6h30 et un coucher à 22h30, hein, pas le droit de dormir plus, la confiscation des téléphones portables et des activités quotidiennes essentielles comme le lever de drapeau et chanter la Marseillaise. Mais pourquoi s'inquiéter ? Regardez, les derniers séjours à SNU qui ont eu lieu, il n'y a eu que quelques dizaines d'insolations, des hospitalisations liées à des malaises et des parents prévenus un peu tardivement, et aussi quelques accusations de racisme et de harcèlement sexuel subies par des jeunes animateurs de la part d'encadrants de l'armée. Bon. Voilà. Et surtout, il y a quelques semaines, on a appris la volonté d'Emmanuel Macron et du gouvernement de rendre obligatoire la participation à SNU pour tous les jeunes dès 2024. Rendre obligatoire un engagement, c'est un concept hein, sans doute disruptif. Tout ça, bien sûr, pour un coût modeste, estimé à 2 ou 3 milliards d'euros. Oui, les plus critiques diront aussi que c'est là qu'on voit que le gouvernement a un rapport à l'argent légèrement élastique, hein, puisque, on le rappelle, rendre les repas crous à 1 euro pour tous les étudiants, ça coûtait 90 millions, mais c'était un petit peu trop cher. Alors, revenons à nos moutons, pardon, au SNU. Alors, avec la contestation contre la réforme des retraites, le gouvernement temporise. Hein, pas question de le rendre obligatoire tout de suite. Et comme je vous le disais, il a misé sur une opération séduction village SNU dans 25 villes de France. Avec un succès un peu mitigé, puisque même à Versailles, il y a eu plus de manifestants venus dénoncer un embrigadement et une militarisation de la jeunesse que de visiteurs intéressés. Place forte de la mobilisation, la ville de Nantes. Face au bruit des casseroles et des manifestants, le village SNU a dû remballer son installation au bout de quelques heures. Ouais, les casseroles en ce moment, c'est plus ce que c'était. De quoi rendre un peu optimiste finalement les propos de Gabriel Attal qui présente le SNU comme, je cite, « la réforme de société la plus puissante depuis de nombreuses années ». Rien que ça.
Merci beaucoup Camilia pour ton éclairage sur le SNU. Avant de poursuivre avec nos invités Maë, Angèle, Liam dans le grand entretien, on vous propose d'écouter le morceau Racist Sexist Boys de The Linda Lindas. Vous êtes toujours sur Prune et c'était le morceau Racist Sexist Boy de The Linda Lindas. Je laisse maintenant la parole à Adeline Quentin et Yelena pour le grand entretien avec Maë, étudiante en lettres modernes, et Liam et Ange, lycéens au lycée Les Bourdonnières.
C'est l'heure de l'interview. Place à nos invités pour analyser la question politique de l'émission.
Depuis le 19 janvier et la première mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, il y a eu un véritable mouvement social qui s'est déclenché en France et notamment parmi les jeunes. On dit notamment qu'ils sont plutôt intervenus depuis le passage de la réforme au 49-3. On est en présence ici de Liam et Ange, lycéens au lycée Les Bourdonnières à Nantes, et aussi de Maë, étudiante en licence de lettres modernes à l'Université de Nantes. Tout d'abord, pour commencer, si on peut revenir un peu sur votre expérience personnelle, est-ce que vous êtes davantage impliqué depuis le 49-3 ou vous étiez déjà militant avant la réforme des retraites, notamment ? Alors peut-être on peut commencer par Ange, ça te va ?
Très bien, ça me va. Eh bien, pour ma part, j'étais déjà militant avant le 49-3. Et par contre, vraiment, le 49-3 a éveillé pas mal de gens et j'ai pu motiver des amis grâce à ça. Mais moi, je m'étais déjà engagé dans les questions politiques. J'étais déjà un peu partout sur les blocus. J'étais déjà rangé un peu aux côtés CGT,
jeunesse communiste, tout ça. J'étais...
D'accord. Et du coup, c'est depuis vraiment la réforme des retraites que tu t'es impliqué vraiment dans ces mobilisations sociales ou c'était quelque chose qui te questionnait déjà avant parmi les autres mesures qu'a pu annoncer Emmanuel Macron sur son quinquennat précédent?
Bah, là-dessus, ça fait déjà plusieurs années avec le Parcoursup, l'obligation du SNU. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est intervenu, mais ça, pareil, ça nous a un peu motivés. Bah, y a aussi les questions écologiques. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on continue de se battre pour qu'on entende toutes les catastrophes. Juste avoir le rapport du GIEC, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu une catastrophe. Et donc, en vrai, avant la réforme des retraites, moi, personnellement, je m'étais déjà mobilisé, mais la réforme des retraites a grandi le mouvement. Ouais.
Ok. Et alors, je me tourne vers Liam. Toi, ton expérience à toi de la mobilisation?
Donc, personnellement, j'avais aussi à commencer vers l'année dernière, notamment via les réformes Parcoursup et les réformes du bac et par rapport au lycée professionnel. Mais c'est réellement cette année, suite à l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites, que j'ai vraiment commencé à beaucoup plus me mobiliser, à être présent le plus tôt possible à chaque blocus, à aller aux manifs du début à la fin de la manif dès que je pouvais et à me mobiliser au maximum, en fait.
D'accord. Et Maë, toi qui es étudiante?
Moi, je suis mobilisée depuis assez longtemps, pas forcément dans les mouvements étudiants, plutôt côté syndicat, sans forcément faire partie d'un syndicat, mais plutôt en étant sympathisante de syndicat. J'ai été mobilisée sur les lois travail en 2016, contre la loi sécurité globale aussi. Je ne sais plus en quelle année elle est apparue. Et après, sur le mouvement au niveau de la retraite, moi, j'étais jusqu'au 49.3, j'étais mobilisée aux côtés souvent de la CGT. Et après, aujourd'hui, après le 49.3, je me suis tournée vers le mouvement étudiant et en faisant partie beaucoup plus du mouvement étudiant que je le faisais avant, du coup.
Est-ce que pour vous, c'était plus un engagement personnel ou c'était déjà présent dans votre culture familiale, par exemple? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question.
Personnellement, d'un côté, j'ai mon père qui est énormément de mon côté, qui m'encourage même à aller faire les manifestations, qui m'accompagne, qui est aussi contre la réforme des retraites, tout ça. Et de l'autre côté, j'ai ma mère qui est moins pour, mais qui me laisse quand même y aller sans pour autant être de mon avis. C'est assez mitigé.
Ange, tu veux répondre à la question?
Ouais. Moi, après, dans le contexte familial, j'ai une famille très politisée, hein, que ce soit du côté de ma mère ou il y en a qui s'étaient présentés aux législatives, des trucs comme ça. Du côté de mon père, ils sont tous très âgés. Mon père a 77 ans, donc ils ont connu mai 68, tout ça, ils ont participé. Et donc, quand ils racontent les histoires, tout ça, forcément, ça donnait envie. Et ils me soutiennent, enfin, j'ai deux parents qui me soutiennent énormément là-dedans, du moment qu'à l'école, je continue à travailler. Et c'est sympathique d'avoir l'encouragement de ses parents là-dedans, parce que c'est pas toujours facile de prendre un engagement politique quand on est au lycée. Parce que ça rentre en interférence avec les cours, ça rentre en interférence avec la scolarité et ça plaît pas toujours. Et il faut quand même rester concentré sur les études, même si des fois ça donne envie d'aller manifester, mais bon.
Mais toi, est-ce que tu as aussi une culture familiale militante ou absolument pas? C'est plus un engagement personnel?
Alors non, j'ai une famille militante. C'est pareil, ils me soutiennent du moment que j'ai mon année, en fait. Sinon, ils ne me soutiendront plus du tout, mais pour l'instant, ça va.
Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mobiliser vraiment? Quel a été pour vous l'élément déclencheur, en fait, de votre implication dans les luttes sociales? Est-ce que c'est vraiment la réforme des retraites? Enfin, c'est bien avant, on a commencé un petit peu à en parler sur les autres mesures. Mais qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans votre militantisme qui veut répondre à la question? Ange, voilà.
Eh bien, encore une fois, personnellement, quand j'étais au collège encore à l'époque, que je voyais tout ce qui passait au niveau des gilets jaunes, j'avais déjà compris à ce moment-là ce que c'était la taxe carbone, etc. Et je comprenais que les gens ne pouvaient pas vivre en dessous de certains seuils d'argent. Et déjà, ça me motivait à y aller. Bon, j'étais au collège, donc je pouvais pas trop. Mais une fois au lycée, ouais, j'ai continué à me renseigner sur tout ce qui se passait en France, sur les luttes. Et j'ai continué à me mobiliser, j'ai continué à lutter.
Mais Tu veux répondre à la question ? Est-ce que toi, tu as eu un élément déclencheur ou forcément, c'est plus venu
J'ai toujours été engagée. Après, partir sur des mouvements et être dans la mobilisation, faire des manifs, etc. Je suis beaucoup plus engagée depuis la réforme de la retraite, c'est sûr. Même si je faisais notamment aussi partie... J'ai participé à des manifestations écologiques également, mais je pense que j'ai jamais été autant mobilisée que depuis la réforme des retraites, parce que, et en fait encore plus depuis le 49-3, parce que ça touche aussi une démocratie et c'est encore plus grave que juste la simple réforme des retraites.
Concernant justement la réforme des retraites, comment se passe la mobilisation dans votre lycée ou Bourdonnière ou à la fac à Nantes ?
Bah, nous, par exemple, ça commence et on s'organise. On a des groupes sur plusieurs réseaux où on se ressemble entre lycéens manifestants. Et on se prévient que certains jours, on va commencer le matin par un blocus. Donc, tout le monde arrive dès qu'on peut, que ce soit les premiers, moi par exemple, qui arrivent en général vers 6h. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à 7h15 de façon à bloquer le lycée. Premièrement, pour manifester tout simplement, c'est une manière de manifester comme une autre. Et aussi, dans l'idéal, ça peut arriver. Il y a plein de gens qui voudraient aller manifester, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont cours et qu'ils ont des parents qui, eux, sont contre cela. Donc, si on bloque assez bien le lycée et que les cours finissent par être annulés, ces gens-là peuvent, eux aussi, aller manifester. C'est pour ça que ça ouvre, en fait, la porte de manifestation à beaucoup plus de monde.
Et concernant la fac ?
Du coup, nous, on s'est mobilisé assez tôt, juste après la fac de Rennes. Donc, on a commencé par faire des AG presque toutes les semaines. Donc, on a aussi commencé par faire des blocus, sauf qu'on a eu les cours distanciels qui ont contré les blocages. On n'a eu pas beaucoup de monde sur les blocages parce qu'en fait, on loupait nos cours. Du coup, on a continué à faire beaucoup d'AG, à faire souvent des débrayages dans les amphis pour parler de la réforme des retraites, pourquoi on se mobilisait. On a été sur toutes les mobilisations, on a aussi beaucoup soutenu les piquets de grève, donc il y a beaucoup d'étudiants sur les piquets de grève aussi. On est aussi beaucoup en lien avec les syndicats, avec les mouvements lycéens également. En fait, on fait beaucoup de liens avec toutes sortes de personnes et on essaie de soutenir tout le monde parce que c'est pas forcément facile pour les salariés. Après, il y a aussi la question des études. Là, on a une baisse quand même de mobilisation chez les étudiants à cause des partiels qui arrivent. Même si on essaye de toujours faire des choses, on a continué pendant les vacances, mais il y a quand même une baisse qui est notable. Mais on est tout le temps... on s'est tous dit qu'on n'arrêterait pas pendant nos partiels, qu'on allait faire en sorte... Il y a encore les questions de comment faire pour continuer à se mobiliser malgré les partiels.
D'autant plus qu'il y a le 1er mai qui arrive lundi.
Oui, alors on se mobilisera aussi le 1er mai. On a prévu pas mal de choses pour le 1er mai, donc on se mobilisera, ouais.
Est-ce que vous sentez globalement un soutien et un accord avec l'ensemble, enfin, ou en tout cas une majorité des lycéens, lycéennes ou étudiants, étudiantes ?
Ouh là 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 là. Alors, c'est pas forcément que c'est une question difficile, mais c'est assez varié en fait. Ouais. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y en a encore quand on bloque récemment, juste avant les vacances, t'en as qui venaient nous voir et qui disaient mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi en France pour que vous fassiez ça ?
En fait, le problème, c'est que les gens ne sont pas assez informés. On dirait à notre âge, il faudrait peut-être qu'on fasse plus de propagande, qu'on explique plus pourquoi. Mais pourtant, on en fait déjà pas mal. Mais il y a des gens, on a l'impression qu'ils ne comprennent toujours pas. On dirait qu'ils ne suivent pas les infos, quoi.
Ouais, mais c'est pour ça, là, on a décidé avec le proviseur de commencer à lancer une campagne de sensibilisation dans les cours de MC.
Et du coup, là, vous avez parlé de votre proviseur. Est-ce que vous êtes aussi soutenu par les professeurs, éventuellement la direction d'établissement ? Parce que à la fac, apparemment, il y a des cours en distanciel. Donc justement, comment vous vous sentez outre l'entourage des étudiants lycéens là-dessus, sur ce soutien ?
Alors, je me tourne vers Maï parce que pas du tout soutenu par la. Enfin, on va dire que politiquement parlant, elle va dire oui, on vous soutient, etc. Après, dans l'action, elle ne nous soutient pas. Elle fait en sorte, par exemple, qu'on ne puisse pas bloquer les facs en fermant la fac. C'est arrivé quelques fois que les matins, on vienne pour bloquer et en fait, la fac était fermée, donc on ne peut pas bloquer. Nos professeurs ne nous soutiennent pas plus que ça, puisque du coup, il y a la mise en distanciel. Après, on sait qu'il y a certains profs qui sont là. Sur l'AG avant les vacances, on a eu une AG en fait, avec des profs qui sont venus dans notre AG étudiante. On a aussi des AG de profs pour qu'eux ils puissent parler et puis qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les étudiants qui se mobilisent. Donc il y a de plus en plus des profs qui s'engagent. Après, on sait qu'il y a une pression aussi de leur côté qui est mise par la direction pour qu'ils continuent les cours. Donc on sait que c'est pas facile de leur côté non plus. Mais donc non, on n'a pas vraiment de soutien en lui-même. On sait que les étudiants qui sont en train de se mobiliser sont en train de perdre des heures de cours, peut-être leur année. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre parce qu'il y en a qui sont boursiers. Il y en a qui, par exemple, les étudiants étrangers, et c'est pour ça que nous, ça fait pas mal consensus, c'est qu'il y a des étudiants étrangers qui risquent leur titre de séjour, donc ils ne peuvent pas se mobiliser, ils ne peuvent pas louper leur année. Les boursiers, c'est la bourse qui risque. Il y en a qui risquent leur voyage Erasmus. Il y en a qui ont vraiment des gros risques derrière. Et du coup, on comprend que ça soit pénible en fait, d'être bloqué. Quand on a fait le blocage sur le périph à la dernière ville morte, on s'est fait... Il y a des personnes qui sont vraiment venues nous crier dessus parce qu'ils avaient des partiels en droit et qu'en fait, ils étaient bloqués dans les bouchons. Et on était, mais on va pas juste vous laisser passer parce que vous avez des partiels. Le but, c'est de vous bloquer parce que ça bloque l'économie, c'est tout.
Et vous, du coup, votre côté au lycée, comment ça se passe sur le soutien?
Alors, on a essayé plusieurs fois de discuter avec le proviseur de notre lycée qui est très ouvert à la discussion, hein, qui discute sans aucun souci.
Oui.
On a eu, par contre, plusieurs embêtements récemment, où ça devient de plus en plus compliqué de bloquer le lycée suite également à certains événements où certains qui décident de mettre le feu à toutes les poubelles collées au portail. 20 000 euros de dégâts. Le sol s'est relevé, le portail a explosé. C'est pas ce qu'on voulait, hein, de base. C'est...
Des petites complications dans
voilà. Et niveau professeur, par contre, il y en a énormément qui nous soutiennent. Il y en a plein qui viennent nous voir, qui nous donnent des idées. Parce que eux ne peuvent pas nous aider à bloquer. Donc par conséquent, ils nous partagent leur créativité, leurs idées. Et ça fait toujours du bien, par contre, d'avoir du soutien de professeurs.
Est-ce que depuis le début de la réforme, vous sentez un regain d'intérêt envers les questions politiques et sociales de la part des jeunes?
Oui, c'est sûr que depuis cette réforme, j'ai l'impression d'avoir jamais vu autant de jeunes, de personnes mineures, étudiantes ou lycéens mobilisés, que ce soit notamment dans les blocus, même si je sais qu'il y a certains lycées où ça marche moins bien, mais j'en ai d'autres en tête, par exemple Jean Perrin, où maintenant ils sont capables de bloquer une semaine tous les jours sans s'arrêter. Alors que moi, pour y avoir été l'année dernière, on n'a pas réussi une seule fois. Donc c'est qu'il y a réellement un mouvement qui augmente et qui arrive à rassembler plus de gens, et même dans les manifestations en elles-mêmes. Je vois de plus en plus de personnes jeunes qui se mobilisent, qui sont là au fond de la manifestation, soit partout en fait. J'ai l'impression que les jeunes se mobilisent de plus en plus.
Maï.
Oui, parce que au tout début, nos AG, elles étaient d'une cinquantaine de personnes, donc c'est pas forcément énorme dans un campus comme Nantes. Et les AG après le 49-3, c'était plus de 500 personnes. C'était assez impressionnant. On est tout le temps extrêmement choqués du nombre de personnes qui ont rejoint les groupes. C'est des personnes qui sont pas forcément politisées, pas forcément dans des organisations. Moi-même, je suis dans aucune organisation. Et il y a vraiment un regain d'énergie. Et ça fait plaisir parce que du coup, on peut se relayer parce qu'il y en a qui sont quand même depuis le début quand même.
Vous parliez tout à l'heure aussi du manque d'informations et tout ça. Alors du coup, on commençait à l'évoquer un petit peu sur peut-être la mise en place de sensibilisation, vous, dans votre lycée aux Bourdonnières. Alors, de quelle manière, vous souhaiteriez... quelles sont vos idées là-dessus sur cette question, d'informer un peu plus les personnes qui, justement, ne comprennent pas forcément, des fois, les actions de blocage, les différentes formes de mobilisation.
Pour le coup, ça, c'est une idée que j'ai eue avec Liam et d'autres, que j'ai déjà évoquée au proviseur, et on a eu son top, on a eu son go. Tant mieux. J'ai commencé aussi à en discuter avec l'équipe des professeurs de MC, mais en gros, ça serait à la fin du cours, parler du compte Action Bourde. Parce que là-dessus, on va faire.
Sur la page Instagram.
Voilà. Oui. Et on va faire avec lui de la sensibilisation. On va faire des posts de pourquoi on bloque, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela, pourquoi nous rejoindre. Et leur expliquer les risques qui peut y avoir et aussi les avantages. Expliquer tout ça et juste expliquer comme on expliquerait à un enfant, quoi. Parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout politisés. Tu leur parles du gouvernement, ils ne comprennent rien. Et pour eux, Gabriel Attal, ils n'ont jamais entendu parler, quoi. Donc faut prendre le temps, faut y aller doucement, et on espère mobiliser un maximum de personnes.
On a aussi une idée qu'on a eue très récemment, qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui va peut-être se faire, c'est de commencer aussi à distribuer des prospectus et des tracts, des petits papiers qu'on va mettre un peu partout au lycée, même des affiches qu'on va mettre, et on a aussi été autorisés, notamment, voilà. Donc, pour informer les gens, quoi. Quand ils passent devant, ils disent, tiens, je jette un petit coup d'œil, et puis ils se disent, ah, c'est peut-être pour ça, tiens, peut-être ça m'intéresserait, peut-être se renseigner plus, en fait, histoire de les informer.
Et Maë, du côté de la fac, vous, quelles sont les différentes mesures qui peuvent être mises en place?
Nous, on a fait déjà plusieurs choses. On a déjà nos AG, elles sont sur les marches de Sensible. Donc en fait, c'est un lieu où tout le monde passe. Donc ça peut inviter les gens à venir voir ce qui se passe. Et en plus, donc on a débrayé les amphis en faisant des prises de parole dans les amphis pour inciter les personnes en amphi à comprendre quelles étaient les raisons de pourquoi on se mobilisait et qu'est-ce qu'on faisait. On a aussi fait des occupations. En fait, on a pris inspiration à l'école d'archi qui bloque à Nantes. À l'ENSA, oui. Qui bloque depuis plusieurs semaines, je crois déjà, et qui ont décidé de faire eux-mêmes leurs propres cours. Et donc, du coup, on a décidé, nous, de bloquer certains... Enfin, sans bloquer les cours pour pas que, du coup, il y ait trop de problèmes avec certains étudiants, mais de prendre certaines salles et de faire, en fait, nos propres cours pour expliquer qu'est-ce que c'était la réforme des retraites, pourquoi on se mobilisait, qu'est-ce que c'était les mouvements sociaux, d'autres mouvements sociaux. En fait, on fait nos propres cours. On a aussi des profs qui interviennent dans leurs propres cours, qui ont décidé de banaliser la fin de l'année. Du coup, avant les vacances, pour parler en fait des mouvements sociaux qu'il y a eu avant, qu'il y a maintenant, pour parler des réformes des retraites aussi. Donc, on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour pouvoir faire en sorte que les étudiants s'informent quand même.
Et vous êtes en lien un peu avec les différents autres établissements, où il y a des étudiants. Alors, on a parlé de l'ENSA, donc l'école d'architecture. Il y a aussi les Beaux-Arts qui est un peu mobilisé également. On a aussi l'ARIFT avec les étudiants qui sont en éducation sociale. Est-ce que vous êtes un peu aussi en lien là-dessus sur ces différents d'autres campus, en fait, parce que c'est vrai que quand on parle de l'université, et surtout à Nantes, on pense souvent à la fac de lettres, à la fac de sciences humaines et sociales, mais il n'y a pas que celle-là.
On est très en lien avec l'école d'archi, du coup, donc l'ENSA. On est aussi un peu en lien avec l'ARIF, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus loin géographiquement parlant. On est aussi en lien avec le campus de Michelet, qui a du mal à mobiliser. Et on est un peu en lien avec l'IFSI. En fait, on fait du lien avec tout le monde, on en parle. Après, on est beaucoup plus en lien avec l'ENSA parce que c'est pas très loin de chez nous. Souvent, il y a des délégations qui viennent dans nos AG de l'ENSA et inversement. Donc, on est resté très en lien avec eux, surtout.
Alors, pour revenir peut-être à encore une question un peu plus ciblée sur toi, Maë, tu as été déléguée au CNE, donc c'est la Coordination Nationale des Étudiants. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est un peu flou pour nous, donc si tu peux nous expliquer de quoi il s'agit.
Alors, ça a été créé il y a quelques mois maintenant. En fait, chaque semaine, les étudiants se réunissent donc, de différentes villes, principalement à Paris, mais donc il y a 2-3 semaines, c'était à Nantes, et donc je faisais partie de cette délégation. Et l'idée, c'est de s'organiser nationalement le mouvement étudiant pour pouvoir faire aussi, pas être forcément contre les syndicats, mais proposer une autre alternative que forcément les intersyndicales, et donc proposer des dates, proposer des actions et une visée et un chemin politique, on va dire ça comme ça. Et donc du coup on fait ça depuis quelques semaines. Bon, il s'avère que là Nantes a décidé de ne plus y aller parce qu'on ne s'entend pas forcément avec tout le monde sur qu'est-ce que apporte la CNE. Nous on voudrait beaucoup plus d'actions. L'idée c'est d'organiser nationalement des actions et c'est pas forcément l'idée de tout le monde. Il y en a, c'est plus plutôt d'avoir une pensée politique commune et ça fonctionne pas forcément. C'est un peu compliqué d'avoir une pensée commune pour tous les étudiants de France. Enfin, ça paraît assez hallucinant quand même. Donc du coup, Nantes a décidé de plus y aller, mais l'idée, c'était d'avoir des organisations nationales.
Tu parlais de l'intersyndicale. Est-ce que ce soit vous, étudiants ou vous, lycéens, vous avez des relations justement avec l'intersyndicale pour organiser la mobilisation?
Eh bien, moi, personnellement, j'ai des contacts dans les syndicats, que ce soit la CGT, que ce soit le CNA, que ce soit le CNT, pardon. Que j'ai des organisations, des contacts dans plusieurs organisations différentes et j'en fais partager à mes camarades. Et pas que au niveau syndical. Évidemment, j'ai des contacts dans le syndicat, mais j'ai aussi des contacts dans les organisations politiques, également avec la jeunesse communiste, qui peut venir sur place aider. Avec, par exemple, le député Carbrat, qui va venir nous aider d'ailleurs.
Député de Loire
de la France Insoumise, ouais, de Loire Atlantique. Ouais. Ouais. Qui va venir nous donner un coup de main assez tôt le matin. Et ça, encore une fois, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Parce que des syndicats, des trucs comme ça, on en entend très peu parler sur les sites de blocage. Et de savoir qu'ils vont venir nous aider, ça fait toujours du chaud au cœur.
Nous aussi, on est beaucoup en lien avec certains syndicats. Alors déjà, parce qu'on a Solidaire étudiant, donc syndicat étudiant. Et donc, du coup, ils sont en lien avec Solidaire. Donc... ça fait que quand on a des actions, Solidaires peut venir. On est aussi beaucoup en lien avec la CGT qui nous ont soutenus sur tous les mouvements qu'on a pu faire, notamment quand ça n'était pas forcément facile avec les violences policières. Donc ils ont été tout le temps là, donc c'était vraiment cool. Et sinon, oui, non, on est vraiment en lien avec l'intersyndicale assez fréquemment. On a toutes les infos et inversement, ils ont toutes nos infos. Donc,
Et est-ce que vous travaillez avec des actions communes avec l'intersyndicale? Ou c'est vraiment un peu chacun de son côté, mais on se donne des nouvelles?
Bah, en fait, on va faire par exemple des mouvements et on va les inviter à venir. C'est-à-dire que les étudiants, depuis les violences policières qui ont été faites durant UNAS le mardi, il y a 2-3 mois maintenant, les syndicats ont décidé vraiment de nous soutenir beaucoup. Et donc du coup, tous les mouvements qu'on fait, on appelle les syndicats. Et donc ils viennent systématiquement et nous, à chaque fois qu'ils ont des mouvements, on vient. C'est pour ça qu'on va sur les piquets de grève, etc.
Eh bien, on va faire une... pause musique et puis on se retrouve juste après. Now this is original foundation ground. This is a band that run into live and direct, you know. Yeah, and this is a warning to the nation, you know. Yeah, that to the young generation, lubrication. Yeah, you know. Rastafari. Now this is the police is to serve and protect, but every day is another life them take, you know. Yeah, and we don't want that crown, no way. For your gun, for the trigger of the police. Discrimination, cause them a gangster in a uniform. Police, cause them a gangster in a uniform. Cause them a gangster in a uniform. Police, cause them a gangster in a uniform. Brrr. Say no, no to the racist police. No, no to the fascist police.
Cause them a gangsta in a uniform. Police, cause them a gangsta. ça in a uniform. Brrr. Say no, no to the racist police. No, no to the fascist police. Say no, no to the wicked police. No, no to the fascist police. No. Say no.
Vous venez d'écouter le morceau Police de Iron Dubs. Vous êtes toujours sur Prune et vous écoutez L'Œil Politique. Nous allons maintenant continuer notre grand entretien avec Maë, Liam et Ange, lycéens et étudiants, pour continuer de parler de leur implication dans le mouvement social.
Alors, tout à l'heure, on parlait notamment de vos relations avec l'intersyndicale. Peut-être aussi, vous, comment vous vous sentez par rapport à la manière de se mobiliser pour les syndicats? J'ai beaucoup lu d'articles, notamment de lycéens, lycéennes, d'étudiants et d'étudiantes, qui disaient que parfois, la mobilisation des syndicats, elle allait peut-être pas assez loin ou qu'elle n'était pas assez, entre guillemets, radicale, on va dire. Vous, quelle est votre position là-dessus parmi vos collègues lycéens, lycéennes ou étudiantes et étudiants
okay.
Alors, Ange.
alors, pour ma part, dans le lycée des Bourdes, à l'époque où je n'avais pas encore tous les contacts que j'ai aujourd'hui, je me ramenais généralement avec un drapeau CGT que j'avais emprunté à durée déterminée. Et je me ramenais avec un drapeau CGT en blocus. Et ça a marché parce que ça a fait parler de soi. Et donc du coup la CGT a été mise au courant. Et à ce moment-là on a commencé à avoir de l'aide de la CGT, de l'aide de Solidaire, de plein de gens comme ça. Parce que également via France 3 qui vient nous interviewer, France Bleu, tout ça. Donc ça fait parler de soi, les syndicats viennent. Mais on n'en a pas énormément. À chaque blocus il y en a un ou deux, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, parce que généralement, quand l'administration voit ça, ils font bon. Bah, il est tout seul, hein, c'est yes, c'est juste des lycéens.
Bah, la dernière fois, il y avait 4 syndicats qui sont arrivés à quoi 7h45, alors qu'au blocus, le dernier blocus qu'on avait essayé qui n'avait pas réussi, donc bon, ça n'avait pas servi à grand-chose. Mais celui d'avant qu'on avait réussi, justement, il y en avait deux qui étaient là tôt le matin, par contre. Il y avait eux, pour le coup, bien aidés, qui avaient tagué tout ce qu'ils trouvaient.
Et Maë, vous, de votre côté, sur la fac?
C'est un peu divers, je pense. Il y en a certains qui voudraient que ça soit qui se mobilisent plus ou qui fassent plus. Mais c'est pour ça, en fait, que la CNE a existé. C'était parce qu'on trouvait que c'était pas assez l'intersyndicale. Aujourd'hui, on a beaucoup l'aide de certains syndicats et puis de toute façon, on les attend pas. Si on a envie de faire plus, on fera plus et on les attendra pas. Par exemple, sur les manifestations, on sait que quand nous, on va plus loin, on a souvent la CGT qui vient avec nous. Et on sait que dans leur propre rang, il y en a qui sont beaucoup plus extrémistes que d'autres, donc radicaux que d'autres. Mais du coup, je sais pas si on attend que... Enfin, en tout cas, pour les étudiants, je ne sais pas s'ils attendent que les syndicats soient plus extrémistes. Je sais que, en tout cas, nous, on se voit aller plus loin et pas forcément rester que sur des mobilisations où apparemment le gouvernement n'en a rien à faire.
Et vous sentez quand même que, en fait, on parlait tout à l'heure que ça aidait, que ça pouvait aussi créer une protection, notamment par rapport aux violences policières et aux forces de l'ordre. Est-ce que vous sentez que ça vous permet, en fait, aussi d'être reconnu, d'avoir la CGT? D'avoir Solidaire, par exemple, parce que est-ce que déjà vous vous sentez entendu aussi par le gouvernement? Parce que les lycéens, les étudiants, parfois, se sentent peut-être invisibilisés. Fin...
Alors, pour le gouvernement, je pense qu'on est totalement invisibilisés et ils s'en fichent un peu, en fait, de ce qu'on fait. On sait qu'ils n'avaient pas forcément envie qu'on vienne dans la lutte parce que, par exemple, ça fait des années qu'on se bat pour l'augmentation des bourses et bizarrement, juste avant qu'ils voient qu'il y ait les jeunes qui viennent pour nous calmer un peu, ils nous ont augmenté les bourses de 37 euros. Donc, on voit que ça leur fait quand même un peu peur que les étudiants ils viennent dans le mouvement. Après, oui, la CGT, elle nous protège un minimum, mais on sait que c'est quand même le syndicat... qui est majoritairement frappé, on va dire, par la police. Donc, je ne sais plus si aujourd'hui, vraiment, ils nous protègent ou si, en fait, quand on va avec la CGT, on est encore plus à risque. Mais c'est vrai qu'on ne va pas quand même sur beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas, qui décident de ne pas y aller quand il n'y a pas de syndicat parce qu'ils ne se sentent pas forcément en sécurité, ce qui est compréhensible. Hein. Mais après,
Ouais. Ça marche. Et du coup, vous, de votre côté, au lycée, vous disiez que des fois, il n'y avait qu'un syndicat. Voilà.
Personnellement, après, qu'il y ait des syndicats ou non, ça ne va pas me changer ma présence aux manifestations, aux blocus ou non. Mmh. Après, c'est sûr que quand on voit des personnes de la CGT arriver, ça fait, on se dit, tiens, il y a quand même des gens... on sent en effet... on sent qu'on est regardé et qu'on existe, quoi. Il y a des gens qui sont là pour nous aider quand même. Bon, après, c'est sûr que quand ils sont un ou deux, ça ne sert pas à grand-chose, mais... Pour dire quand même, ouais, la CGT vous voit, c'est déjà ça.
Après aussi, ce que je voulais dire, c'est que la CGT, certes, de la CGT, les syndicats en général, certes, des fois, ils viennent en nombre
réduit,
minimal. Mais ça nous fait toujours plaisir d'avoir une présence syndicale, parce que ça veut dire que l'appel qu'on a fait n'est pas passé inaperçu. Ça veut dire que l'appel qu'on a fait a été considéré. Et donc là, on se dit, bon, chouette, au moins, il y a quelqu'un qui nous écoute. Donc bon, voir au moins une ou deux personnes, c'est toujours ça de prix. Hein, au moins, ça fait un représentant.
Mais que rien.
Et niveau gouvernemental, j'ai surtout envie de dire qu'à chaque fois que les jeunes se sont vraiment énormément mobilisés, c'est ça qui a fait tomber la réforme.
On a parlé des syndicats des travailleurs et des travailleuses principalement, mais au niveau des syndicats lycéens, étudiants, pour revenir un petit peu sur l'actualité, donc l'UNEF, qui est un syndicat qui était proche du Parti Socialiste, a annoncé sa scission suite à une crise interne et elle a créé la nouvelle organisation, l'Union étudiante, avec le syndicat L'Alternative. On a l'Union Pirate qui est très présente, notamment à l'université de Rennes 2 où elle est née en fait. Mais des fois, on a l'impression que les syndicats, on ne les voit pas trop. Notamment, je pense à Nantes, beaucoup. Quel rôle pour vous ils jouent, ces syndicats au niveau du lycée ou au niveau des étudiants Peut-être, Maëlle, est-ce que tu as un avis là-dessus Pour toi, est-ce que les syndicats sont assez présents, notamment sur la fac de Nantes
Il n'y a pas beaucoup de syndiqués en fait dans la fac de Nantes. On a des personnes qui sont dans des organisations, mais c'est pareil. Là, par exemple, si je prends l'exemple de l'AG, l'idée c'était qu'il n'y ait aucune organisation qui surplombe l'AG parce que ce n'était pas l'objectif. Et on savait que si il y avait des organisations qui arrivaient et qui prenaient le grappin sur l'AG, en fait, ça allait faire fuir des gens. Et on le voit, il y a beaucoup de jeunes en tout cas qui n'ont plus confiance dans les politiques et donc qui n'ont pas confiance dans les organisations. Et les syndicats, c'est pareil malheureusement. Et donc du coup... je pense que les syndicats en eux-mêmes ne servent pas à grand-chose au niveau étudiant parce que déjà, ils ne sont pas assez nombreux et parce que de toute façon, il y a tellement une perte de confiance dans les politiques que du coup, les étudiants, ça les ferait fuir plus qu'autre chose.
Donc, ils ne constituent pas pour vous des porte-paroles forcément
Non. Et puis, de toute façon, à Nantes, on a Solidaire étudiant, on a un tout petit peu d'Union Pirate, mais en fait... L'Union Pirate à Nantes, ils font pas grand-chose. On les voit. Hein. Ils ont leur drapeau, mais c'est tout en fait. Ils nous ont proposé à l'AG d'être porte-parole au niveau de la présidence, mais après c'est pas forcément quelque chose qu'on a pris parce que si on a envie de parler à la présidente, on considère qu'on ira le faire nous-mêmes et que ça sera pas par le biais d'un syndicat qui probablement se prendra tous les lauriers après, alors que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça soit un mouvement étudiant et que ça soit tous les étudiants qui soient représentés, organisation ou pas organisation.
Vous souhaitiez ajouter quelque chose, peut-être, Angéliane ?
Niveau lycée, il n'y a personne de syndiqué, en fait, parce que lycée, ça fait trop tôt, entre guillemets, voilà. pour certains.
Globalement, on est presque tous mineurs, quoi.
Ouais, ça, c'est pas encore un problème, tu vois. Il y a les syndicats lycéens, comme la Voix lycéenne.
C'est sûr que ce n'est pas un, mais les gens ne le savent pas forcément, en fait, c'est surtout ça.
Ouais. Mais et justement, ça fera aussi partie de la campagne de sensibilisation. Oui, en étant lycéen, on peut rejoindre des partis, des syndicats, des assos, des trucs comme ça. Et ouais, malheureusement, on n'en entend pas assez parler. Actuellement, je crois, le syndicat lycéen qui marche le mieux, de ce que j'ai compris, c'est la Voix lycéenne, dans le 44. Parce que la Voix lycéenne, même sans drapeau, c'est ceux qui sont le plus présents actuellement, que ce soit en manif ou en blocus. Donc on en entend assez régulièrement parler.
Oui, c'est sûr, celui qu'on voit le plus.
Voilà, et la présence syndicale autre que lycéenne, les lycéens n'en ont un peu rien à faire. Honnêtement, dans le lycée, quand on en entend parler, ça crache énormément sur les syndicats, hein, que ce soit sur la CGT, etc. pas forcément parce qu'ils y trouvent un intérêt, mais plus parce qu'ils trouvent ça drôle. Tu vois. Donc il y en a très très peu qui veulent s'engager dans des syndicats.
D'autre part, il y a aussi d'autres revendications qui sont prises en compte. La lutte contre la discrimination, la lutte contre le racisme, la défense de la cause LGBTQIA+, mais aussi l'écologie. De quelle manière, pour vous, elle s'imbrique, tout ça s'imbrique dans les luttes ? Maëlle.
Ouais. Nous, en tout cas, on s'était dit que pour la mobilisation contre la réforme des retraites, aujourd'hui, on n'en était plus qu'à là. Et que c'était pas que la mobilisation contre la réforme des retraites sur lequel on s'attaquait, mais en fait, c'est contre un système. On veut pas de ce système capitaliste. Donc, on défend aussi les conditions étudiantes. Ça fait des années qu'on en parle, mais y a une précarité chez les étudiantes qui est vraiment pas normale. Quand on voit que 25% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, bah, on n'a pas forcément envie... que ça se perpétue et on trouve ça vraiment pas normal. On est sur des conditions d'études actuelles qui sont plus que à retravailler. On a des bâtiments qui sont plus que médiocres. Le Crous, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on paye... qu'on nous a déjà interdit le repas à 1 euro pour tous les étudiants alors qu'on sait que du coup, il y en a beaucoup qui travaillent et qui... et c'est le principal... c'est le fait de travailler à côté des études, c'est la principale raison d'échec en fac. Donc les conditions de travail et d'études, c'est vraiment les conditions qu'on est en train de défendre aussi à côté de la réforme des retraites, à côté aussi de l'écologie, parce que c'est notre avenir et que c'est, je pense, les principales causes qu'aujourd'hui défendent les étudiants et qui mettent en accord aussi tous les étudiants.
Après, oui, forcément, nos manifestations, que ce soit nos blocs et tout, sont principalement centrées actuellement sur la réforme des retraites, l'utilisation du 49.3. Mais c'est sûr que ça englobe quand même tout le reste. Mais en fait, c'est que ce reste en question est un peu moins médiatisé, je trouve, qu'actuellement la réforme des retraites et tout le reste. Même si, au fond, dans l'âme, on manifeste aussi pour ça, mais il y a plein de gens qui pensent que les manifestations sont uniquement pour réforme des retraites 49.3 et qui ne sont même pas au courant qu'en fait, on se bat en réalité pour plein d'autres causes en même temps. En fait.
Ouais, quand on vient nous voir, c'est exclusivement pour parler de la réforme des retraites, mais moi personnellement, j'aime bien rappeler aussi Parcoursup, le rapport du GIEC, SNU, tout ça, et je rappelle assez régulièrement tout ça.
Donc, on le disait, il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a aussi l'écologie, le social, le féminisme. On a l'impression que les jeunes sont de plus en plus engagés quand même pour que le monde de demain ne devienne pas une impasse. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez ?
Oui, on
ressent énormément d'engagement, parce que ça concerne tout le monde. Il y a des sujets pour tout le monde, sauf les cons. Oui. Parce que l'écologie, ça concerne tout le monde, sauf les cons, parce qu'eux ne veulent pas changer leurs petites habitudes, leurs petites usines.
Il y en a qui pensent qu'à leur petit confort, et puis voilà.
Mais l'écologie, ça, c'est un sujet que beaucoup de jeunes ont pris part, en fait. C'est un sujet qui touche particulièrement les jeunes parce que c'est nous qui allons être les premiers impactés. Alors même s'il y en a d'autres qui vont être impactés, on est quand même ceux qui vont être le plus impactés probablement. Et je pense que du coup, le fait d'en parler, le fait de voir que... Enfin, je pense que sur beaucoup d'associations écologiques où il y a des jeunes, je pense qu'il y a aussi les jeunes qui se mettent beaucoup en fait sur les associations principalement. C'est peut-être pas les syndicats, mais c'est plus les associations qui vont toucher les étudiants et les jeunes. Il y a le côté social aussi qui est vraiment impacté. On a à la fac, il y a aussi, on voit beaucoup l'AFEF par exemple, qui est une association qui aide les jeunes en quartier prioritaire. Donc ça va être de l'éveil culturel et de l'aide aux devoirs pour des personnes en zone prioritaire du coup. Et on voit pas mal d'associations comme ça qui se trimballent à la fac. Et en fait, il y a vraiment un impact étudiant, je pense, dans ce genre d'association.
Peut-être pour revenir, alors il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être sur les dernières, donc depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, depuis 2017, il y a eu pas mal de mesures, notamment qui ont été prises pour les jeunes. Donc je pense par exemple à Parcoursup, à la réduction des APL, à la réforme du baccalauréat, à l'instauration du SNU, donc, notamment qu'on a pu entendre tout à l'heure le biais de la carte blanche de Camilla. Il y a aussi la réforme à l'entrée du master. Donc ça, c'est vraiment pour les réformes qui sont vraiment propres aux jeunes. Quel est votre sentiment sur ces différentes réformes ? Comment elles vous impactent ? Voilà. Si vous voulez peut-être répondre, je laisse la parole déjà au lycéen, hein, donc Liam.
Par exemple, pour parler de Parcoursup, même moi, ça m'arrive souvent d'en parler, notamment parce que je suis lycéen et que ça va m'arriver dans un an et demi. Et quand je parle avec des gens qui ne sont pas du tout médiatisés, pas du tout politisés, en fait, les gens ont peur de Parcoursup. c'est vraiment, ils le voient comme un ennemi à affronter, où tu te dis, bah, en fait, ça peut détruire tout mon avenir, quoi. Parce que si à tout moment, il y a un truc qui passe pas, bah, bam, surtout qu'on a l'impression que c'est pas vraiment regardé, il y a des gens qui font des grandes lettres de motivation et tout, et en fait, il y a des trucs qui sont même pas observés. Là, j'ai par exemple un truc tout con que j'avais vu, une fille qui avait envoyé une lettre de cuisine comme lettre de motivation à une fac à Bordeaux et qui avait été prise. Alors que ça avait vraiment, bah, concrètement aucun rapport, c'était une fac de droit. Donc en fait, c'est vraiment, on a l'impression que c'est aléatoire et qu'ils prennent un dossier au pif, ça y est. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait peur, même aux gens qui ne sont pas politisés, médiatisés. Et c'est vraiment un ennemi contre lequel on combat.
Mais même en dehors de Parcoursup, je me suis pas renseigné sur toutes les réformes scolaires qui ont été prises depuis le début du gouvernement de Macron. Mais en tout cas, énormément ont fait polémique, énormément n'ont pas marché, énormément ont des soucis, en fait. Et rien qu'il n'y a pas longtemps, Monsieur Papandiaï, le ministre de l'Éducation, nous dit que les profs absents seront directement remplacés. Je ne sais pas si vous avez écouté le projet qu'il a donné, mais c'est ridicule.
Oui.
C'est complètement ridicule. Donc, en gros, si le prof d'anglais n'est pas là, ça sera le prof de maths qui va le remplacer. Et si le prof de maths n'est pas là, ah, ça sera le prof d'anglais. Donc, ça joue sur le hasard, en fait. C'est ridicule. Notre scolarité, avec les réformes que Macron a fait depuis le début, notre scolarité, elle tient qu'à un fil et il joue avec. Il joue avec. Rien que pour Parcoursup, il augmente le sentiment de compétition entre les élèves. Pour la réforme du bac, bon, ça, c'est, pour les pros, je ne me suis pas tellement renseigné que ça.
Mais pour l'instant, elle est mise en stand-by, la réforme.
Ouais, bah, tant mieux. Mais de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, oui, c'est n'importe quoi.
Bah, d'autant plus que maintenant, de la société actuelle, on a l'impression qu'en fait, les études sont de plus en plus importantes. En fait.
Bah, oui.
Ils les rendent de plus en plus compliquées, de plus en plus conflictuelles et oppositoires entre les étudiants. Et aléatoire surtout, alors que maintenant on a l'impression que pour avoir une vie ne serait-ce qu'un peu digne de ce nom, on a l'impression qu'on va être obligé de faire je ne sais combien d'années d'études, et on dirait qu'il n'y a que ça qui compte, alors que normalement enfin, ça ne devrait pas, quoi.
Et aussi je voulais juste évoquer un truc très rapide et assez important qu'on m'a demandé d'évoquer, c'est le mal-être lié à tout ça, le mal-être dans le lycée. Parcoursup crée énormément de soucis.
De stress, voilà. D'angoisse.
Stress, angoisse, je ne pourrais jamais y arriver, je ne serai jamais pris dans mon école. Moi, le nombre de personnes que j'ai récupérées en pleurant à cause de ça, merci, mais bon, c'est dévastateur.
Puis j'imagine que aussi, ça dépend aussi de ça, des établissements où vous êtes également, qui sont peut-être moins aussi favorisés.
Bah, c'est pas un algorithme de choisir ça.
Bah oui, surtout que moi, par exemple, j'étais allé faire une visite dans une prépa, prépa Mathieu Pas Clémenceau, et j'avais parlé avec un professeur qui disait qu'ils ont notamment un classement des lycées, où tu as certains lycées où les gens ont plus esprit que dans d'autres. Par exemple, ils vont prendre. Par exemple, pour le lycée des Bourdonnières, il fallait être pris, il fallait que tu sois le premier de ta classe en maths, le premier dans les trois premiers en physique et dans la première moitié dans tout le reste. Et ça inclut encore une fois une forme de rivalité entre tous les étudiants, tous les élèves qui ne devraient pas exister, en fait, qui ne devraient pas avoir lieu d'être.
Et aussi, moi personnellement, je connaissais beaucoup de conseillers d'orientation. Et tous, je leur avais posé des questions sur Parcoursup pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Tous m'ont dit que c'était nul. Tous m'ont expliqué pourquoi ça ne marcherait pas, en fait. Si même les conseillers d'orientation sont contre quelque chose qui choisit l'orientation, quand est-ce qu'il va nous écouter, en fait? Quand est-ce qu'il va écouter les gens concernés par ce qu'il fait?
Mais écoute, quand ça lui rapporte de l'argent, c'est là qu'il écoute.
Pour conclure avec le passage en force puis la promulgation de la loi sur les retraites par Emmanuel Macron, comment voyez-vous rapidement la suite de ce mouvement?
En fait, on a l'impression qu'on se mobilise quand même pas mal. Enfin, je vois partout en France qu'il y a des manifestations qui durent tous les jours, tous les soirs, jusqu'à je ne sais quelle heure, que ce soit devant des... Je perds mes mots. Enfin bref, il y a beaucoup de mobilisation.
On lâche rien. Quoi.
Oui, voilà, on lâche rien. Et pour autant, on a l'impression de ne pas être écouté une seconde. Emmanuel Macron qui disait non, on ne lâchera pas cette réforme des retraites. En fait, on a vraiment l'impression de ne pas écouter et qu'il s'en fiche royalement.
Ouais, on a l'impression de ne pas être écouté. Et puis, en fait, on a l'impression qu'ils sont totalement à l'ouest et qu'ils ne sont pas dans la réalité. Parce que moi, j'ai écouté le discours de Macron la dernière fois. Enfin, il croit vraiment pouvoir gouverner alors qu'il y a 70% des personnes qui sont contre lui et que ça, c'est pas possible de gouverner dans un pays comme ça. Et c'est assez... moi, je sais pas si il faut que Macron démissionne ou autre parce qu'en fait, on est dans une crise politique actuelle que même s'il démissionne, on sera toujours dans cette crise politique. Il a enfoncé le pays dans un, dans un tel point que c'est pas possible de s'en sortir comme on était avant, en fait. C'est, on n'aura pas un retour en arrière comme ça. Après, la lutte, je suis sûre qu'elle va continuer, parce qu'il est en train de demander à des travailleurs 2 ans de leur vie. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, en fait, on peut se mobiliser. Dans tous les cas, on aura perdu peut-être autant que ce qu'il nous aura demandé, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour cet entretien. Merci Maë, étudiante en licence 2 de lettres modernes. Merci Liam et Ange, étudiants au lycée de la Bourdonnière.
Merci à vous.
Merci à Yelena et Quentin pour cette interview. Et tout de suite, je vais vous expliquer à différencier les mange-morts et les fachos.
Critique, décalé, engagé. C'est le billet d'humeur de L'Œil politique.
Aujourd'hui, il me paraît important de faire une distinction simple entre deux types de personnes qu'il est aisé de confondre, mais qui en réalité sont complètement différents. Les mange-morts et les fachos. Dans un premier temps, il faut savoir que les mange-morts, ils n'aiment pas les autres êtres humains qu'ils considèrent appartenir à une classe inférieure. Alors que les fachos, eux aussi, ils font ça. Mais les mange-morts, eux, ils ont tendance à s'organiser dans l'ombre pour s'insinuer lentement mais sûrement dans la société. Alors que les fachos, eux aussi, ils font ça. Soit. Mais les mange-morts, ils sont dans une stratégie qui vise à faire vraiment, vraiment mal physiquement aux gens avec qui ils sont pas d'accord. Et ils s'entraînent pour ça. Et les fachos, eux, ils font ça aussi. Hein. Les hooligans, on vous voit. Mais la grande différence subsiste dans le fait que les mange-morts, c'est des lâches. Quand ils attaquent, ils s'assurent toujours d'être plus nombreux et de prendre leurs opposants par surprise pour pas trop se mettre en danger. Alors que les fachos, eux, ils font ça aussi, hein. Dans un contexte brûlant de lutte sociale et de bataille contre le gouvernement, l'ennemi de l'ombre peut être un peu trop sous-estimé, c'est l'extrême droite radicale. Aujourd'hui, les fascistes prennent confiance, sortent de l'ombre et vont même jusqu'à organiser leurs propres manifestations. Aujourd'hui, à Saint-Brévin, a lieu un rassemblement fasciste soutenu par Reconquête, Civitas et l'Action française, entre autres, contre le transfert du centre d'accueil pour demandeurs d'asile à côté d'une école. Une incitation à la haine banalisée de la part de partis xénophobes et intolérants. À l'heure où des millions de gens sont aussi dans la rue pour défendre la liberté, des partis d'extrême droite se servent de ce même mot « liberté » pour exprimer des opinions qui méprisent les demandeurs d'asile, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans le CADA et le maire qui soutient le projet qui, pour cette simple raison, a vu sa voiture brûler. Mais la riposte antifasciste s'organise. Le collectif antifascisme du Pays de Ré appelle pour sa part à une manifestation contre la loi Darmanin et pour l'accueil des personnes exilées. Parce qu'il ne faut pas laisser les mange-morts gagner. Il ne faut pas laisser les mange-morts se sentir légitimes. Il ne faut pas laisser les mange-morts gagner encore en confiance. 2 mois après la première action en février dernier, malgré la fatigue liée au mouvement social toujours en cours, des manifestants, groupes publics, collectifs antifascistes et syndicats de Nantes, Rennes et d'ailleurs s'organisent tous ensemble pour être plus nombreux, plus visibles, plus forts et militer contre la tolérance à Saint-Brévin. Auditrices, auditeurs, L'Œil politique touche maintenant à sa fin. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.prune.net. Encore un grand merci à nos invités du jour pour leur présence. Tout de suite sur Prune, écoutez Les Impertinentes, une émission qui vous propose une heure de discussion autour de sujets de société, de culture et d'initiatives animées par 4 femmes aux langues bien pendues.
C'était L'Œil politique. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.